début de l'été 2021, dans un grand entretien accordé au magazine Elle, Emmanuel Macron fustigeait l'intersectionnalité qui, je le cite, « fracture tout ». De fait, depuis que le terme a fait son entrée dans l'espace public en France, il ne cesse de diviser. Certains y voient une logique de repli sur soi et son identité, quand d'autres le considèrent au contraire comme un renouvellement de la critique sociale et des inégalités. Mais au fait, sait-on vraiment ce qu'est l'intersectionnalité ? Il est des termes et des notions comme celle-ci où l'on est sommé de prendre parti, d'avoir un avis sans même savoir de quoi on parle et sans même oser demander de quoi il est question. Eh bien, il est l'heure aujourd'hui de faire le contraire. Bonjour Sarah Mazouz.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS. Vous avez coécrit avec Éléonore Lépinard pour l'intersectionnalité aux éditions Anna Moza. C'est paru l'année dernière en 2021. Est-ce que vous pouvez nous donner, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la définition de l'intersectionnalité ?
Alors l'intersectionnalité, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un concept qui est comme souvent une théorisation à partir de constats empiriques, j'y reviendrai. C'est une démarche de recherche et c'est un projet de justice, un projet politique. Ça veut dire quoi l'intersectionnalité au départ ? L'intersectionnalité, donc le terme lui-même, est forgé par une juriste qui s'appelle Kimberlé Crenshaw, mais on pourrait trouver d'autres autrices qui ont pointé le même type de situation en les nommant autrement. Et Kimberlé Crenshaw, qui travaille donc comme juriste, pointe un problème posé notamment, mais pas seulement, par les catégories de l'action publique, donc dans le contexte des États-Unis, et aussi dans l'action d'associations, qui sont monocatégorielles. C'est-à-dire que vous avez des politiques qui ne portent que sur la condition des femmes, d'autres qui ne vont s'en prendre qu'à la question du racisme. Et donc, dans ces situations-là, ce que constate Kimberlé Crenshaw, c'est que on oublie les personnes et les groupes qui se trouvent à l'intersection de ces différents types d'oppression. Donc, c'est par exemple, voilà, quand elle travaille sur les violences faites aux femmes, que se passe-t-il quand des femmes noires sont victimes de violences chez elles ? Donc, les associations antiracistes ont tendance à ne pas comprendre ce qui se joue de particulier pour ces femmes qui peuvent être victimes aussi de leur propre conjoint ou de leur partenaire. Et puis, du côté des associations féministes, on oublie la dimension justement raciale ou racialisante qui fait aussi le quotidien de ces femmes. Et donc, c'est ça au départ, et à partir de là, ça va être une démarche qui ne va pas se limiter à la question de la classe et à la question de la race et du genre. Mais déjà, dans un texte de 89, Kimberlé Crenshaw travaille là plutôt sur des décisions de justice en matière de droit du travail. Elle prend en compte aussi les questions de contrat et de statut de l'emploi. Mm-hmm. Donc, c'est aussi la classe. Ça peut être aussi le statut par rapport à l'immigration, le fait d'être étranger ou pas, d'avoir des papiers ou pas.
Ça peut être le handicap,
ça peut être
l'âge.
L'âge, la question, la catégorie de sexualité. Donc voilà, et la liste est infinie. En fait, souvent par commodité de formulation, on parle du triptyque initial qui est classe, race, genre. Mm-hmm. Mais être dans une démarche intersectionnelle, c'est aussi être ouvert au fait que de nouvelles questions puissent apparaître et qu'on puisse mettre en lumière justement d'autres formes de pouvoir, de rapports de pouvoir qui n'ont pas été jusque-là travaillés. Et donc, c'est porter le regard sur l'intrication et le type de domination particulière que subissent les personnes qui sont au croisement. Et donc, c'est à partir de là aussi un projet de justice, puisque l'idée, ça va être d'être attentif et attentive à ces formes particulières de marginalisation.
Alors, on va déplier tout ce que vous venez de dire, Sarah Mazouz, notamment sur le fait que Kimberlé Crenshaw est une juriste, que c'est un projet de justice. Deuxième question, pour mettre aussi les pieds dans le plat, c'est pourquoi, au vu de la définition aussi facile et presque évidente de l'intersectionnalité que vous nous donnez, pourquoi ce terme est-il autant crispant et clivant dans le débat public, alors que ça semble être un outil de réflexion et d'approche des inégalités assez sensé?
Oui, alors j'avoue que moi-même, je ne comprends pas très bien pourquoi ça suscite autant d'agacement. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ça dans les années 2005, c'était un outil conceptuel.
On n'en parlait pas à l'époque.
Oui, c'était un outil conceptuel comme d'autres, comme la notion de socialisation, comme la notion d'habitus, enfin toutes sortes d'outils qui servent à analyser le social. Donc après, c'est sûr que c'est un outil critique. Et qui va venir mettre en lumière des formes de domination, des formes plus complexes de domination, et qui va, puisqu'il appelle au fait de faire attention aux dominations qui sont jusque-là occultées, ça invite tout le monde à se poser la question des propres formes de pouvoir qu'on peut produire ou reproduire sur des catégories, sur des groupes qui sont marginalisés. Donc en fait, c'est un concept qui appelle une remise en cause assez forte. Donc ça peut crisper notamment des personnes qui pensent être du côté de l'émancipation. C'est pour ça qu'on a des attaques de part et d'autre. Et puis après, dans le cas particulier de la France, ça appelle à prendre au sérieux les processus de racialisation et donc de travailler de manière critique sur la notion de race. Et ça continue de susciter des défenses et des résistances très fortes dans le contexte particulier de la France, mais pas que en France. Même aux États-Unis, les études critiques de la race sont très, très attaquées, par exemple.
Et pour être cohérent avec votre manière de travailler, Sarah Mazouz, il faut peut-être justement dire d'où vous parlez, puisque votre livre s'intitule « Pour l'intersectionnalité ». Alors, comme c'est un terme clivant, qu'il y a des débats, qu'il y a des pros et des anti, il faut signaler que vous allez à la fois présenter cette notion, son histoire, ce qu'elle permet, est-ce que c'est véritablement un concept ou plutôt un outil, comment on s'en sert, comment ça peut s'appliquer dans une dimension politique, mais vous parlez quand même d'un point de vue qui est du côté de la défense de ce concept-là, on peut dire ça ?
Ah oui, tout à fait. C'est un concept que j'utilise, que j'ai découvert parce qu'à un moment, alors que j'étais étudiante en thèse, j'avais fait des entretiens avec des jeunes qui avaient participé, pour certains, aux émeutes de 2005. Et pour comprendre la complexité, la variété de positionnement et les différences qui pouvaient émerger, notamment entre jeunes hommes et jeunes femmes, j'ai trouvé cet outil et ça m'avait aidé à ce moment-là. Et puis après, voilà, ça m'a permis d'analyser. Et en effet, je me disais en préparant l'émission, ce serait intéressant de montrer pourquoi ça apporte quelque chose de plus. Typiquement, pendant mon enquête de thèse, qui portait en partie sur les politiques la reconnaissance des discriminations raciales et pour laquelle j'ai fait un terrain ethnographique, notamment en préfecture, par exemple, pour comprendre une interaction que j'ai pu observer entre une personne qui était une fonctionnaire bien placée dans la hiérarchie préfectorale, jeune femme noire, antillaise, en tout cas catégorisée comme noire par ses collègues, et en même temps ayant un poste de responsabilité très important, pour comprendre la façon dont, par exemple, une de ses subalternes, dans un système très hiérarchisé, n'arrêtait pas de la rabaisser. Il fallait justement avoir tous ces éléments. C'est-à-dire que si j'avais expliqué ça que par l'appartenance bourgeoise de cette personne, on n'aurait pas compris. Si je n'avais parlé que de genre, on n'aurait pas compris non plus pourquoi entre ces deux femmes il y avait ça. Si je n'avais parlé que de race, on aurait perdu quelque chose aussi. Mais comprendre la dynamique de ces trois éléments, avec en plus par exemple la question de l'âge, ça permet de comprendre toute la difficulté de la situation, en fait, et l'interaction que vit cette femme à un moment pendant un entretien que je fais avec elle et donc une de ses collègues qui est son assistante.
L'intersectionnalité est une métaphore qui permet de comprendre comment de multiples formes d'inégalités ou de désavantages peuvent parfois se combiner et créer des obstacles qui ne sont pas compris dans les réflexions conventionnelles sur la lutte contre le racisme ou le féminisme ou dans n'importe laquelle de nos structures de défense de justice sociale. L'intersectionnalité n'est pas tant une grande théorie qu'un prisme pour comprendre certains types de problèmes. Les filles afro-américaines ont 6 fois plus de chances d'être renvoyées de l'école que les filles blanches. C'est probablement un problème racial et de genre. Ce n'est pas juste un problème racial ou juste un problème de genre. Donc j'encourage les gens à réfléchir à la façon dont la convergence des stéréotypes, raciaux et de genre, peut réellement jouer un rôle en classe, entre les enseignants et les étudiants, entre les étudiants entre eux, entre les étudiants et les membres de l'administration, comme un moyen de fournir des opportunités égales en matière d'éducation pour tous les élèves, quelle que soit leur identité.
C'était la voix de Kimberly Crenshaw, donc dans une archive qui date de 2018. C'est un extrait d'une vidéo que vous diffusez souvent à vos élèves, Sarah Mazouz, pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'intersectionnalité. Il faut quand même revenir sur cette définition. Elle parle de métaphore au début. C'est assez frappant d'utiliser ce terme, alors qu'on s'attendrait plutôt à un terme comme un outil, un instrument. Enfin, vous voyez, quelque chose de plus solide qu'une métaphore.
Alors, en même temps, la création conceptuelle a une racine commune avec le travail métaphorique. Mais ce que veut dire Kimberly Crenshaw, c'est aussi, ça s'inscrit dans un débat au sein du féminisme. C'est-à-dire que pendant, et ça a à voir avec cette idée de complexifier l'analyse de la domination. Pendant longtemps, quand on a mis en rapport classe, race, genre, pour rester à ce triptyque, mais bien sûr, on pourrait ajouter d'autres termes, on a pensé soit les choses par analogie, est-ce que ça fonctionne de la même manière, et puis quand on a pensé leur relation directe, on a souvent tendance à penser que ça s'additionne. Et donc on utilise une métaphore arithmétique. Quand Kimberly Crenshaw travaille sur des configurations spécifiques, où selon les moments, ben, ça va se renforcer, ça va pouvoir aussi s'atténuer, ça va créer des formes de dissonance, etc. Là, il ne s'agit plus d'utiliser une métaphore arithmétique, mais elle va utiliser la métaphore géométrique de l'intersection.
De ce qui se croise.
Voilà, de penser le croisement en ayant en tête deux choses. C'est-à-dire que pour les personnes qui se trouvent dans ce croisement, les politiques qui sont censées les aider ne se croisent pas. Et puis après, dans la démarche qui va être celle de la chercheuse ou après dans une démarche politique, ça va être de créer des croisements. Et donc, sur le plan politique, de créer aussi des coalitions. Notamment à travers ce que dit aussi une autre juriste importante en matière d'intersectionnalité, qui est Marie Matsuda, qui dit « L'intersectionnalité, c'est aussi poser l'autre question. » C'est-à-dire poser la question d'abord des points aveugles des mouvements. Donc, quand je vois un acte antiraciste, je dois me poser la question de toutes les autres formes d'oppression et voir s'il ne contient pas aussi ça. Mais plus, on peut aller plus loin. C'est-à-dire, quand on est un mouvement antiraciste, veiller à ne pas produire du sexisme, de l'homophobie, de l'agisme, voilà, etc. Pareil, quand on est un mouvement féministe, veiller à ne pas être, à ne pas réitérer des stéréotypes racistes, des stéréotypes agistes, etc. Donc, se poser toujours la question des autres causes qui ne sont pas les causes principales pour lesquelles on lutte.
Mais fonctionner de cette manière-là par intersection et non par addition et se poser toujours cette autre question, est-ce que ça, d'un côté, ça peut enrichir, effectivement, ça enrichit le point de vue et la compréhension d'une situation d'inégalité, mais en même temps, est-ce que ça n'empêche pas de prendre en compte le facteur déterminant de discrimination? Est-ce que finalement, en se posant l'autre question et en se disant « mais peut-être qu'il y a toujours autre chose », est-ce que finalement, on ne complique pas une situation, on n'essaye pas en fait d'avoir une liste exhaustive de tous les facteurs d'oppression, au lieu peut-être de s'en tenir en fait à un facteur qui va être déterminant plutôt qu'un autre dans une situation?
Alors, sur le plan, aussi bien sur le plan du travail empirique, et je pense a fortiori quand on est du côté de l'action militante, on a toujours une... Enfin, sur le plan de l'action militante, je ne vais pas mélanger les deux, il y a toujours une cause plus importante. Enfin, voilà, les groupes, les associations se constituent comme associations antiracistes, comme associations féministes, etc. Il n'en demeure pas moins. Donc, c'est pas l'idée de dire on va faire tout en même temps. Mais on va être attentif. On va se sentir concerné. On va être capable d'entendre quand parmi nos militants et nos militantes, des questions qui ne sont pas notre question centrale vont émerger. On ne va pas dire « Ah ben non, une fois qu'on aura réglé notre question principale, votre question se réglera d'elle-même. » Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, dans une lecture classique, par exemple du marxisme, ça a été de dire « Si on règle les inégalités de classe et les questions de redistribution, tout va se régler. » Et il y aura pas. Et donc, toutes les autres questions sont des questions annexes. L'intersectionnalité dit qu'il n'y a pas de questions annexes. Après, on peut avoir des points d'entrée différents. De la même manière, quand on fait de la recherche, on ne va pas dire a priori c'est le genre, ou a priori c'est la classe, ou a priori c'est la race, mais on va voir à la fois les formes de dynamique qui existent entre ces différents rapports de pouvoir, et en même temps, on a des entrées. Moi, j'ai découvert l'intersectionnalité en travaillant plutôt sur la question raciale. Éléonore Lépinard, avec qui j'ai écrit cet ouvrage, elle s'est emparée de cet instrument en venant des études de genre. Donc voilà, et on reste dans nos champs respectifs.
Vous avez dit tout à l'heure, Sarah Mazouz, je faisais du terrain en 2005 et j'ai trouvé ce concept d'intersectionnalité comme si vous étiez tombé dessus. Comment on en vient à tomber en fait sur ce concept ? Est-ce que c'est un concept qu'on enseigne ? Si oui, en fait, dans quel type de sciences humaines ? En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut voir pour avoir fait des études de philosophie en philosophie. Et d'ailleurs, est-ce que c'est véritablement en fait un outil, un concept ? Est-ce que c'est une notion ? Vous nous avez un peu dit comment vous en serviez, mais véritablement, enfin voilà, comment on manipule l'intersectionnalité ?
Alors, moi, en 2005, ça n'était pas enseigné, en tout cas en France. Là, ça tient à la façon dont on fait de la recherche. Quand on fait de la recherche, c'est à la fois un travail solitaire et puis en même temps, c'est un travail fait de dialogue, de collectif de chercheurs, a fortiori de collectif de doctorants. Et donc, voilà, on présente les choses dans des séminaires, on en parle à des collègues, on en parle à des amis. Moi, j'avais cette question sur les différentes formes de participation ou non-participation. J'en parle à des personnes avec qui je travaillais, dans lesquelles j'étais dans des groupes de recherche, etc. Et puis on me dit, mais en fait, regarde le texte de Crenshaw, ça t'apportera peut-être des éléments. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Kimberlé Crenshaw. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de se dire, par rapport à des attaques qu'on a pu avoir, qui sont en général, qu'on trouve aussi à l'intérieur de l'université, c'est pas une grille qu'on plaque, une grille de lecture qu'on plaque et qu'on importerait des États-Unis pour américaniser le contexte français. C'est des questions qui émergent sur un terrain français et puis on trouve des outils qui peuvent être aussi bien états-uniens que autres. Et d'ailleurs, on est un peu focalisé là sur les États-Unis en matière d'intersectionnalité parce que c'est la bibliographie qu'on connaît et parce qu'on lit
l'anglais. Parce que Kimberlé Crenshaw est américaine.
Et parce que Kimberlé Crenshaw est très importante. Mais il y a des choses qui se font, par exemple, dans le monde, en Amérique latine, aussi bien dans les pays hispaniques, je pense notamment à la Colombie ou par exemple au Brésil, où ces instruments circulent encore plus entre le monde académique et le monde militant. Et voilà, c'est simplement, des bibliographies qu'on ignore. Et parce qu'en France aussi, on est dans ce jeu de face-à-face avec les États-Unis, qui est que chaque fois qu'il y a un élément... un instrument critique qui a été produit en partie aux États-Unis, tout le monde s'exclame en disant voilà, on met en péril le modèle républicain. Mais c'est pas ça. En fait, les idées circulent. Et une des choses aussi importantes à savoir, c'est-à-dire que quand on importe une notion comme celle d'intersectionnalité, on pense aux conditions de l'importation. Comment dans un pays comme la France se centraliser avec ce type d'administration, avec le contexte législatif, etc. La question, on peut utiliser cet instrument. Et ce n'est pas une grille qu'on plaque bêtement.
Vous mettez souvent en parallèle, Sarah Mazouz, la sphère militante et la sphère de recherche. Et on a vu que Kimberlé Crenshaw, elle venait en fait du droit. Est-ce que l'intersectionnalité est un outil dont on peut se servir de la manière dans le droit tel qu'il a été formalisé par Kimberlé Crenshaw, ou alors son texte, les deux textes qu'elle a fait en 89 et 91 pour formuler et pour formaliser cet outil étaient véritablement des textes plutôt de sciences sociales. Est-ce qu'on peut vraiment en fait appliquer de la même manière cet outil comme si en fait il était imperméable à toute frontière entre quand même ce qui relève de la recherche, ce qui relève du militantisme, et c'est souvent d'ailleurs une critique qu'on va faire à l'intersectionnalité, c'est que finalement la recherche ne serait pas dénuée d'idéologie. Est-ce que cette intersectionnalité, on peut l'utiliser pareil tout le temps ?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Je vais d'abord répondre sur ce qui se joue entre différentes disciplines. Et puis après, on verra. Un des éléments, et c'est ce que dit Crenshaw, un des éléments intéressants dans la notion d'intersectionnalité, c'est qu'elle est, c'est une notion plastique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pensé à adopter cette méthode, cette démarche de croiser, on peut le faire dans différentes disciplines. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire de la même manière en droit, en sociaux, après en études littéraires, par exemple, etc. Et c'est par ailleurs aussi cette pluralité disciplinaire qui fait qu'il y a un très grand... Il y a un foisonnement de discussions, de débats au sein même des gens, entre les gens qui travaillent de manière intersectionnelle. Par exemple, quand Crenshaw publie son texte de 91, vous avez, de la part des sociologues, des critiques sur la façon très figée dont elle pense les rapports entre classe, race et genre, le côté abstrait. Donc vous allez après avoir des gens qui sont plutôt qui viennent de l'anthropologie ou qui ont en tout cas une méthode ethnographique, qui vont essayer de voir comment on travaille de manière ethnographique, et donc ils vont penser plus ces questions des dynamiques qui existent entre classe, race, genre, etc. Donc voilà, donc il y a quelque chose de commun. Une attention au croisement entre différents rapports de pouvoir de façon à complexifier, à rendre compte plus finement des rapports de domination. Après, selon les disciplines, on ne va pas travailler exactement de la même façon. Et pour ce qui est après du rapport entre militantisme et recherche, il y a plusieurs choses.
Qui est un point crucial.
Qui est un point crucial.
Vraiment là où l'intersectionnalité est attaquée.
Oui, et où tous les travaux critiques sont attaqués. Mmh. Alors, d'abord, c'est comme souvent dans ces attaques, c'est étonnant de voir que dans certains cas, des gens sont taxés de militantisme pour être délégitimés, alors que d'autres qui sont tout autant militants mais qui appartiennent à un autre camp pensent dire la science, etc. Donc, il faut être vigilant au fait que c'est aussi une sorte de lieu commun rhétorique et une stratégie rhétorique de délégitimation. Dès qu'un discours gêne ou pose des questions dont on ne veut pas, on va dire c'est militant. Donc ça, c'est déjà ça. Après, pour ce qui est des sciences sociales, c'est sûr que quand on travaille sur la société, on a un rapport au politique. Ça ne veut pas dire qu'on va écrire de la même façon un texte scientifique qui va être validé par des pairs, par des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, qui n'ont pas la même démarche scientifique, qui ne partagent pas les mêmes présupposés, et un texte militant. Et la même personne peut écrire un article qui sera validé et qui paraîtra dans une revue scientifique après réécriture, enrichissement, travail de précision, etc. Et puis un texte, une prise de position personnelle, citoyenne, militante. Dans les deux cas, il y a un engagement face à la cité, mais qui ne se traduit pas de la même façon et qui ne va pas donner les mêmes choses. Mais en fait... Même Durkheim, il avait une conception de la société et quand il décide de travailler sur le suicide sans rapport aux politiques et à la manière dont la société fonctionne, il a quelque chose à dire sur le statut des femmes, etc., etc. Donc en fait, il n'y a pas de sociologue et de chercheur en sciences sociales qui n'ait pas un rapport à la cité. Simplement, voilà, il y a un rapport critique qui est dans certains cas pris pour présenté. Comme quelque chose qui serait militant.
Voilà, la critique est véritablement adressée à ceux qui utilisent cet outil d'intersectionnalité comme vous et qui le défendez. C'est véritablement, en fait, de masquer un militantisme derrière des atours scientifiques et de donner une assise conceptuelle à ce qui ne serait, au fond, qu'une opinion, qu'une cause à défendre. Qu'est-ce que vous répondez, en fait, à ces gens-là, hormis peut-être rappeler, comme vous l'avez fait, l'histoire, l'émergence de ce concept?
À part leur dire que c'est un concept et qu'il n'y a pas de concept en sciences sociales qui ne viennent pas du monde social et que les va-et-vient avec le monde militant sont constants. Et qu'après, bien sûr, il y a des théorisations, il y a des choses qui se sont forgées d'abord sur le terrain et après, les sociologues ou les chercheurs en sciences sociales plus largement s'en emparent. Et puis après, ça repart dans le monde militant, c'est transformé, ça peut être des formes. Enfin, c'est comme ça. Je pense que ça a à voir, alors ça c'est peut-être pas pour répondre, mais c'est pour que les gens aussi comprennent quels sont les ressorts de ce type d'attaque. Ça tient au fait aussi, c'est ce qu'on dit avec Éléonore, ça tient au fait qu'en France, on confonde quand on parle de scientificité, la question de l'objectivité et la question de la neutralité du sujet qui produit d'une connaissance.
Est-ce qu'on ne sacralise pas, aussi pour le dire autrement, Sarah Mazouz, le fait que les concepts dans les sciences humaines et les sciences sociales soient dépourvus en fait, de tout ancrage concret, enracinement ?
Tout à fait. On pense qu'un vrai chercheur ou une vraie chercheuse, un vrai concept, c'est neutre, ça n'a pas de rapport avec le social. Et ça, c'est faux. C'est une erreur, c'est-à-dire que tout le travail de ce qu'on appelle les épistémologies du point de vue, c'est de dire que l'objectivité ne se construit pas à partir d'une prétendue neutralité du sujet épistémique, donc du sujet connaissant, mais ça se travaille à partir de la prise en compte, justement, de la position qu'il ou elle occupe, et aussi, on aboutit à une objectivité plus forte grâce à un travail collectif qui va permettre aussi de prendre en compte les savoirs issus des expériences minoritaires.
Donc cette épistémologie du point de vue, c'est une épistémologie que vous défendez, Sarah Mazouz, et que vous pratiquez. Concrètement, comment on fait ça ? C'est-à-dire que, par exemple, vous écrivez un texte, vous, à partir de vos recherches, de terrain, et après, en fait, c'est le fait de le confronter à d'autres expériences, le fait de faire relire, ou est-ce que c'est le fait, en fait, dès vos recherches, de le faire en collectif ? Comment on procède, en fait, à cette idée ? Ou alors, c'est le fait, peut-être, de tout le temps vous poser la question de d'où je parle ? Là, je me situe en tant que femme, de tel âge, de telle race, dans telle ville. Est-ce que c'est ça, en fait, l'épistémologie du point de vue ?
Alors, à la fois, penser sa position, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le travail de réflexivité et même chez des gens qui n'adhéreraient pas à la question des épistémologies du point de vue. Comment on travaille quand on essaye de mettre ça ? C'est d'abord d'admettre que il n'y a pas de position neutre, en fait, parce que ce que c'est que derrière l'argument de la neutralité, c'est encore une forme, c'est en fait un auto-effacement de la position de dominant. C'est-à-dire qu'en effet, dès qu'on on occupe une position de dominant, on est la norme, on dit la norme, et on fait passer, et la norme est d'autant plus forte qu'elle passe pour étant ce qui va de soi. Donc c'est pour ça que neutralité, neutralité et domination peuvent s'articuler. Donc déjà, partir du principe que on n'est jamais socialement neutre. Et parler, mais c'est pas juste dire sa position.
Oui, il suffit pas de dire en haut dans l'article, voilà, bonjour.
Je suis ceci, je suis cela, et puis c'est.
Alors comment ça apparaît ?
Donc c'est après réfléchir à la façon, de même qu'on réfléchit sur la façon, les effets de la façon dont on est perçu sur un terrain, les effets de cette perception sur les résultats qu'on obtient, on réfléchit aussi sur ce que nous on perçoit, c'est-à-dire de dire, moi je dis ça, peut-être parce que, moi j'ai cette expérience-là. Pour vous prendre un exemple, tiré de ma thèse, la deuxième partie de ma recherche portait sur les procédures de naturalisation et aussi comment dans les pratiques d'octroi de la nationalité française, ce qui s'y jouait et notamment comment on retrouvait des processus de racialisation. Je réfléchissais au fait, j'explique pourquoi dans les interactions que j'ai observées, moi j'étais très attentive aux formes de malentendus qu'il pouvait y avoir entre les postulants et les personnes, les représentants de l'administration. Parce que moi-même, j'étais à ce moment-là j'avais inclus à mon terrain ma propre procédure de naturalisation. Et donc, j'étais moi-même dans ces questionnements autour des documents, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'ai pas mis assez de choses, etc. Donc là, c'est une façon d'expliquer pourquoi d'un seul coup, on fait porter, on porte l'attention à ce point.
Mais donc, c'est une chose que vous dites, ou c'est une chose que vous formalisez, par exemple, dans votre thèse, en disant...
Je le dis en introduction du chapitre sur la procédure de naturalisation. Okay. Pourquoi j'ai plus fait attention à ça qu'à autre chose.
D'accord, ok.
Après, sur la partie travail collectif, bien sûr qu'on travaille collectivement, je le disais tout à l'heure, avec des collègues, mais aussi avec les personnes qu'on interviewe. Dans un autre texte qui partait là justement d'un malaise au début de ma thèse que j'avais sur le fait d'utiliser la catégorie de race et aussi de choisir dans une enquête sur les discriminations raciales des personnes au nom des caractéristiques que je supposais être les leurs et qui étaient aussi ce qui produisait leur situation d'exclusion ou d'inégalité, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Les mots pour le dire » et donc qui interrogeait ça. En fait, une des choses qui m'ont permis de dépasser, je ne dis pas que j'ai résolu la question, mais de dépasser le malaise en partie, c'est de me dire d'abord, je vais toujours demander aux gens comment ils s'identifient. Je ne vais pas plaquer sur eux ma simple perception de leur phénotype, de leur origine, etc. Je vais les faire relire. Je vais aussi interviewer systématiquement des gens dont je pense qu'ils ne sont pas forcément discriminés du point de vue racial, mais je vais voir comment eux formulent leur expérience, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire ça à tous les coups, mais c'est des choses qu'on peut faire pour essayer de se décentrer. Parce que c'est ça, en fait, l'intersectionnalité, voilà. Et c'est ça qui bloque un certain nombre de personnes, c'est qu'il faut se décentrer. Et donc, c'est aussi, c'est une leçon qui vaut pour tout le monde, aussi bien pour les gens qui sont hostiles à cette notion comme pour celles et ceux qui s'emparent de cette notion, c'est une leçon d'humilité. Ça veut dire qu'on n'a jamais, à soi tout seul, les clés pour comprendre tout ce qui fait le monde social.
Mais faut-il être intersectionnel, Sarah Mazouz, pour se dire ça et pour penser ça ?
Sans doute. Après, ça ne suffit peut-être pas.
Le racisme, dans un nombre de plus en plus grand de circonstances, se cache. Celui qui prétendait les sentir, les deviner, se découvre visé, regardé, jugé. Le projet du raciste est alors un projet hanté par la mauvaise conscience. Le salut ne peut lui venir que d'un engagement passionnel, tel qu'on en rencontre dans certaines psychoses. Et ce n'est pas l'un des moindres mérites du professeur Baruch que d'avoir précisé la sémiologie de ses délires passionnels. Le racisme n'est jamais un élément surajouté, découvert au hasard d'une recherche au sein des données culturelles d'un groupe. La constellation sociale, l'ensemble culturel, sont profondément remaniés par l'existence du racisme. On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité.
Le racisme n'est pas seulement une plaie de l'humanité, c'est Frantz Fanon qui le dit. Frantz Fanon, psychiatre militant décolonialiste, dans cet archive de septembre 1956, on y entend cette idée de racisme qui se répercute à tous les niveaux de sociabilité. L'intersectionnalité va mettre en avant, va venir révéler toutes ces dimensions sociales qui se croisent pour permettre de révéler des situations d'inégalité. Est-ce que finalement, l'intersectionnalité, ce terme dont on parle aujourd'hui, Sarah Mazouz, existait déjà avant même qu'on en formule le terme et que finalement des chercheurs, des théoriciens ne faisaient pas déjà des recherches, n'avaient pas déjà des théories intersectionnelles sans même en fait en parler.
Vous voulez dire qu'il y avait des un peu comme Monsieur Jourdain, des gens qui faisaient de l'intersectionnalité
voilà. Avant d'en parler.
En fait, ben, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez évident dans la démarche intersectionnelle qui est de partir du constat que la réalité sociale est multidimensionnelle et qu'il faut arriver à prendre les choses en compte ensemble. Donc ça, oui, bien sûr. Et toute personne qui essaye de travailler de manière un peu complexe sur le social a ça. Là où il y a vraiment peut-être quelque chose de spécifique à la notion d'intersectionnalité, c'est cette idée de dire ça n'est pas systématiquement une addition. Et par exemple, si on pense aux questions de genre, le fait d'appartenir au groupe qui, en général, est privilégié sur le plan du genre, donc d'être un homme, ne va pas être, dans tous les cas, synonyme de privilège dans toutes les situations sociales si ça s'articule à d'autres formes de domination. Mmh. Je pense, par exemple, à la question des hommes racisés dans leur rapport à la police. Mais là où l'intersectionnalité va dire, dans un premier cas, bah, en fait, dans ces cas-là, c'est plus dur pour un homme que pour une femme noire, par exemple. Un homme noir et une femme noire, un homme noir aura plus de chances de se faire contrôler et d'avoir un contrôle violent qu'une femme noire. Mais après, ce que va venir dire aussi l'intersectionnalité, c'est que une fois qu'on a dit ça, après, quand on regarde ce qui se passe plus particulièrement, et c'est ce sur quoi travaille actuellement, enfin depuis un moment, Kimberlé Crenshaw, c'est qu'à partir du moment où on prend en compte cette question des violences policières, on va aussi avoir tendance à rendre moins visible le cas des femmes qui sont, elles, victimes de violences policières. Donc, c'est un jeu de poupées russes. Donc, c'est peut-être ça ce qu'apporte l'intersectionnalité en plus.
Et puis, cette archive de Frantz Fanon nous permet, Sarah Mazouz, quand même de mettre le doigt sur quelque chose qui crispe peut-être plus que l'intersectionnalité en tant que telle, mais que met en jeu l'intersectionnalité, c'est le racisme, c'est la race. C'est-à-dire que cette prise en compte de la race a été souvent vue vu comme une manière d'enfermer les individus dans des identités, de les réifier, de les essentialiser. Bon, là, je donne tous les termes sous lesquels...
Qui servent à la critique qu'on utilise pour délégitimer l'intersectionnalité. Aussi.
Voilà, exactement. Alors, comment faire pour justement se dire que prendre à la fois en compte la race, le genre et la classe, ce n'est pas disqualifier tel ou tel facteur, mais au contraire, en fait, les articuler. Et comment, en fait, cette idée de race, ce n'est pas enfermer les individus dans leur identité, mais au contraire, prendre en compte une construction sociale et historique qui a des effets réels pour l'individu.
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand on parle de race, on n'est pas en train d'adhérer aux hiérarchisations biologisantes et naturalisantes, du racisme, mais on est en train de mettre en évidence un mécanisme qui continue de produire des formes d'inégalité. Alors, c'est pour ça qu'en fait, moi, quand je dis race, j'ai toujours notion critique de race. Parce que ça permet...
Il vaut mieux préciser.
Oui, il vaut mieux préciser, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler des races.
Comme si on établissait une hiérarchie entre
avec les groupes. Donc ouais. Ça, c'est la théorie raciste qui parle de race, qui les hiérarchise, qui les classe, qui essaie de voir s'il y a des différences physiques, qui pose en nature ces différences entre groupes. Quand on parle de manière critique de la race, on dit on est dans une situation où on est héritier, d'une époque où le racisme, pour le coup biologisant, a structuré les rapports sociaux, les représentations, les conceptions du monde, etc. Donc tout n'a pas disparu avec l'abolition de l'esclavage, avec les décolonisations, etc.
Ou avec la suppression du mot race, comme il était à un moment donné question
sur
la Constitution.
Oui, qui n'a pas été supprimé. On pourra revenir sur cette question après. Donc, quand on parle de race de manière critique, qu'est-ce qu'on désigne ? On désigne un rapport de pouvoir abstrait, c'est-à-dire que a priori, vous n'avez pas de caractéristiques qui sont raciales ou pas, qui sont racialisantes ou pas, mais selon les contextes historiques, politiques, sociaux, vous allez avoir un geste à côté du geste de hiérarchisation qui est celui de la classe, à côté du geste de hiérarchisation qui est celui du genre, à côté du geste de hiérarchisation qui se fait au nom d'une hiérarchie des sexualités, etc. Vous avez un geste qui va être de hiérarchiser au profit d'un groupe et aux dépens de plusieurs groupes, donc de créer cette hiérarchie entre ces groupes au nom d'une origine réelle ou fictive, ou inventée, ou supposée, qu'elle soit culturelle, religieuse, géographique, etc. Et on va dire, les groupes qui appartiennent à cette origine-là sont une menace pour l'homogénéité, pour la stabilité, pour la dignité morale de notre société, et on va les mettre au banc de la société. Alors, aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe systématiquement, mais c'est encore ce geste-là qui continue d'être actif. Et donc, quand on parle de race, c'est ça, on désigne ce rapport de pouvoir abstrait qui va après prendre des incarnations différentes, et donc qui va mettre en place des processus de racialisation différents selon les situations. Et donc, en fait, travailler sur la race, c'est en effet, ça permet de travailler sur la France, ça permet de travailler sur les États-Unis, mais ça permet aussi d'aller voir ce qui se passe en Afrique subsaharienne, par exemple, ou en Inde. Et là, pour des gens qui sont habitués, des gens comme nous, qui ont le regard forgé par un contexte européen, il y a sans doute plein de subtilités dans les formes de racialisation qui prennent forme là-bas, qu'on ne perçoit pas parce qu'on a l'impression que tout le monde, par exemple, a le même phénotype, alors que c'est aussi actif et que c'est lié à l'histoire aussi coloniale, mais d'une autre manière, etc. Donc, la race, ça n'est pas croire que les races du raciste existent, c'est dire qu'il continue d'y avoir un rapport de pouvoir qui produit des logiques de domination, de discrimination, de persécution, qui ont à voir avec la race, avec l'idée de hiérarchie raciale.
Mais alors, est-ce que vous comprenez les critiques à l'égard de l'intersectionnalité qui enfermeraient les individus dans justement tout le temps la réflexion de ce qu'ils sont et de des expériences qu'ils traversent. Par exemple, vous avez parlé d'origine fictive. Donc, ça veut dire que l'individu auquel vous vous adressez, par exemple, en considérant une situation d'inégalité, va tout le temps être en train de se poser la question « Mais qui je suis ? Est-ce que là, c'est « je me suis sentie discriminée en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme pauvre ?» Et donc, tout le temps doit se penser en fonction de catégories, alors qu'elle s'est peut-être juste sentie discriminée en tant que femme à ce moment-là, ou peut-être juste en tant qu'individu, indépendamment de toutes ces dimensions.
Mmh. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que là, moi, quand j'ai décrit les choses, j'ai décrit le geste qui est le geste de production de la domination. Là, vous parlez de l'expérience subjective que produit cette domination.
Et des individus avec lesquels vous faites des entretiens et vous
faites
du terrain.
Alors, c'est autre chose. C'est-à-dire que je crois que quand on fait l'expérience de la domination, on sait très bien pourquoi on est dominé. C'est-à-dire que si on est discriminé à la fois parce qu'on est une femme et noire et parce qu'on est pauvre, on le sait. Et donc, en fait, là encore, c'est pas une grille de lecture qu'on applique. C'est la façon dont se dit notre expérience. Et c'est pour ça encore qu'une autre critique qui montre que les gens qui critiquent l'intersectionnalité n'y connaissent rien, n'ont pas lu les textes de Kimberlé Crenshaw ni des autres, et plaquent, eux, pour le coup, non pas des grilles de lecture, mais des topoïs qu'on ressort à chaque fois que c'est pratique, c'est de dire ça en forme dans les identités. La principale critique que fait Crenshaw dans son texte de 91, c'est elle s'en prend à ce qu'on appelle aux États-Unis les identity politics, qui ont tendance à ne prendre en compte qu'une seule identité et qui enferment les gens dans cette identité en oubliant les autres dimensions qui font leur condition sociale. Donc, c'est pas ça. Et puis, par ailleurs, travailler de manière intersectionnelle ou travailler, voilà, sur la question, par exemple, des discriminations raciales ou des discriminations de genre, c'est justement travailler sur la question des discriminations, donc sur la manière dont on produit des inégalités et comment l'expérience vécue de ces inégalités en vient à produire un groupe. C'est pour ça qu'on parle de minorité et pas d'identité. La minorité au sens sociologique, c'est pas la minorité statistique, c'est le fait d'être soumis ou soumise à un type de discrimination ou à des types de discrimination croisés. Et donc après, si on a des formes de reconnaissance les uns entre les autres, ou si on va après politiser cette condition, ça vient dans un deuxième temps. Et donc, ça n'est pas une identité abstraite de « ah voilà, je me retrouve dans une culture qui serait la mienne », etc. C'est « ma condition va faire qu'après, je vais me reconnaître dans des pratiques culturelles, je vais aller dans certains lieux, je vais voir des gens, je vais me réunir avec certains et certaines, etc. » Et au contraire, celles et ceux qui ont une vision abstraite de l'identité, et notamment de l'identité qu'ils imposent à celles et ceux qu'ils assignent racialement, c'est ceux justement qui assignent racialement, qui vont penser que être arabe c'est être ça, être noir c'est être ça, être asiatique c'est être ça, être juif c'est être ça, c'est ça. C'est-à-dire que l'identité abstraite, elle est utilisée comme moyen d'assignation racialisante. Elle n'est pas revendiquée par les personnes qui politisent après leurs conditions de personnes racisées.
Dans l'histoire des États-Unis, on trouve que la femme noire a joué un rôle très important. Et ça, je crois, c'est parce que les femmes noires ont travaillé à côté des hommes. Je trouve que la femme noire a eu une certaine indépendance parce qu'il fallait travailler. Et vous trouvez, par exemple, qu'en tant que la lutte pour la libération noire, il y a pendant l'esclavage, il y avait Harriet Tubman, Sojourner Truth, après ce qui a déclenché tout le mouvement pour les droits civiques, c'était le fait qu'une femme noire s'est refusée de s'asseoir derrière. Et puis, ce qui n'est pas très connu, c'était un groupe de femmes noires qui avait dit qu'il faut organiser un mouvement. C'était elle. Et puis c'était Martin Luther King qui est devenu le porte-parole pour ce mouvement.
C'était la voix d'Angela Davis dans Radioscopie de Jacques Chancel le 9 mai 1977. Elle rappelle le rôle que les femmes noires ont joué, le rôle considérable qu'elles ont joué dans le mouvement des droits civiques. Et elle fait, en parlant et sans le formuler tel quel, elle établit exactement, Sarah Mazouz, ce de quoi on est en train de parler, à savoir l'intersectionnalité, puisqu'elle croise, elle articule à la fois le fait d'être une femme et d'être noire dans un mouvement de lutte qui montre bien que l'intersectionnalité, et ce sur quoi j'aimerais vous interroger, Sarah Mazouz, n'est pas seulement un outil, comme on l'a dit, de recherche ou de recherche dans les sciences sociales, mais aussi un outil politique. Et j'aimerais qu'on revienne sur la manière dont cet outil devient opératoire en politique.
Alors, cet outil est opératoire en politique parce qu'il se pose la question de comment on produit du commun à partir des expériences minoritaires et à partir donc en essayant d'ouvrir le spectre à partir de ce qu'on va produire comme communauté politique. Et donc si ça explique aussi pourquoi l'intersectionnalité est critiquée, enfin suscite énormément de résistance en France là plutôt donc dans le débat médiatique et politique. C'est parce que l'intersectionnalité va dire on va produire du commun ou un universel à partir, en prenant en compte aussi les expériences minoritaires. Et donc, on ne va pas obtenir l'universel par abstraction. Alors, dans le contexte français, en effet, on a, alors, comme souvent, et c'est pas que dans le contexte français, mais on a eu tendance à rigidifier tous les débats qu'il y a eu à l'époque de la Révolution française autour de les rapports entre universel et abstraction. On comprend très bien à l'époque de la Révolution pourquoi l'abstraction est vue comme à ce moment-là, l'abstraction des qualités personnelles est vue comme un vecteur d'égalisation entre les différents membres du corps politique, puisqu'il fallait s'abstraire d'un système où la naissance et l'héritage faisaient votre destin politique. Vous étiez du tiers état, vous n'aviez pas de droit, enfin, pour le dire très rapidement, et vous étiez noble ou membre du clergé et vous aviez un certain nombre de privilèges. Mais on voit très vite comment l'universalisme abstrait, et là ça reprend un peu, c'est un peu le même schéma que ce que je disais tout à l'heure sur la question de la neutralité, l'abstraction là aussi, ça sert à effacer des positions de dominant. C'est-à-dire que là encore, puisqu'il faut, on va dire, il faut éviter les caractères, on va effacer les caractéristiques personnelles, ce qui va finir par paraître comme abstrait et comme étant, c'est ce qui est la norme, et donc ça va être à nouveau en faveur du groupe dominant et en défaveur des groupes qui sont vus comme particuliers, qui sont en fait les groupes dominés. Donc on le voit tout de suite au moment de la Révolution française. L'universalisme, l'idée que c'est par l'abstraction qu'on arrive à l'universalisme, produit l'exclusion des femmes du corps politique. Et puis on le revoit après, par exemple en 1848, au moment de l'abolition, tous les stratagèmes utilisés pour que les affranchis ne puissent pas bénéficier de droits politiques. Etc. Donc l'idée, c'est d'essayer de penser, non pas de s'opposer à l'idée d'universalisme,
mais il faut être très clair là-dessus, parce que effectivement, ça veut dire que parce qu'on a tendance à penser l'universalisme comme forcément abstrait, comme forcément neutre, il faut rappeler qu'on peut penser un universalisme, et c'est ce que propose l'intersectionnalité, un universalisme incarné, concret, c'est ça. Mais alors, à quoi ça ressemble un universalisme incarné ?
Ça reste en partie à inventer, puisque pour le moment nous.
Mais ça semble presque impossible à imaginer l'idée d'embrasser.
Ça peut être tout simplement déjà, pour commencer, un petit exercice que les personnes qui sont en position de dominant parviennent à voir en quoi l'expérience de personnes dominées disent quelque chose d'universel. C'est la phrase d'Alice Diop dans Marianne Noire, où elle explique, elle, comment, adolescente, elle s'est reconnue en lisant des livres écrits par des hommes blancs du 19e siècle. Elle cite Balzac, Zola, etc. Et elle dit, en fait, à un moment, il faudrait qu'aujourd'hui, des hommes blancs bourgeois arrivent à se reconnaître quelque chose d'universel dans l'expérience que moi je décris en tant que femme noire, relativement jeune, aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui.
Et comment ce serait possible, ça? Parce que moi, par exemple, je ne doute pas qu'il y ait des hommes qui se reconnaissent dans l'expérience de ces femmes-là. Qu'est-ce qui nous prouverait que ce soit le cas? Qu'est-ce qui nous permettrait de montrer que des hommes ne pensent pas qu'en tant qu'homme, mais se mettre à la place des autres, et d'ailleurs pourrait le faire sans s'approprier, en fait, cette place-là. Dire, finalement, moi, je sais ce que c'est, j'y ai réfléchi, être une dominante. Enfin, vous voyez, oui. Elle est d'un côté, ni écarter le bah, fait qu'un...
En fait, il suffit d'accorder toute sa légitimité et ne pas à ces discours qui sont issus des expériences ou ces productions artistiques, ou ces productions littéraires, ou ces productions scientifiques, accorder leur légitimité en tant que telle à ces productions et pas passer son temps à dire à les particulariser en pensant être plus universel que les autres.
C'est donc, ça. Par exemple, en pensant les particulariser, par exemple, en se disant...
Parce qu'il se dit, par exemple, sur les travaux... Enfin, les critiques qu'on reçoit, c'est des critiques qui vont avec le fait qu'on est aussi en partie des personnes minoritaires. Et que donc, on va nous dire, ben non, vous êtes en train de parler de vos petits problèmes. Ben non, c'est nos problèmes qui sont aussi, qui ont autant droit de cité que les vôtres.
Et alors justement, ce principe-là, parce que cette idée-là, comment faire par exemple pour pouvoir se dire que les problèmes de quelqu'un d'autre dans la société sont autant les miens que les siens, qu'on les partage, sans en fait... se mettre à sa place au point d'occulter en fait ce que lui a en dire, vous voyez, sans être un allié qui prend toute la place.
Ah bah je crois que ça, alors à la fois ça c'est des histoires de posture de travail, moi j'ai pas de solution éducative universelle,
mais c'est une des difficultés.
Oui bien sûr que c'est une difficulté, et c'est une difficulté du politique en général, c'est-à-dire comment arriver à produire une unité et aussi un concernement, je pense, enfin je sais pas, le mot est peut-être pas n'existe pas en français, mais le fait de se sentir
intérêt.
Concerné, de se sentir concerné, c'est-à-dire quand on est concerné, on est dans un rapport de bienveillance vis-à-vis d'autrui, on n'est pas en train de chercher à prendre sa place, on se sent juste, on se dit juste que on accorde juste une, on pense que ce qu'il ou elle est en train de dire de son expérience, etc., vaut le coup d'être écouté, d'être entendu avec bienveillance, quitte après à ne pas être d'accord, d'être discuté. Mais en ayant d'abord écouté et pris au sérieux l'expression d'une expérience qui n'est pas la nôtre. Et je crois que c'est ça la base. Et c'est peut-être après sur le plan des institutions, il y a plein de choses. Voilà, moi je suis pas. Mais je pense que par exemple aussi bien arriver à avoir des formes de politique de la présence, c'est-à-dire au niveau du recrutement, avoir des gens qui viennent avoir des politiques qui permettent d'avoir, enfin, oui, des choix qui permettent d'avoir des personnes qui viennent de groupes minoritaires qui continuent d'être sur le plan statistique aussi minoritaires dans les institutions.
Donc, par exemple,
penser aux questions de représentation.
Enfin, la diversité, les politiques de diversité,
notamment,
mais qui parfois en fait masquent aussi une volonté un petit peu vide.
Rien n'est la panacée, c'est-à-dire que tout peut être. Ça peut toujours être utilisé de manière ambivalente et ça peut en effet servir à placer les gens, à les installer dans une position, etc. Mais je pense que le geste premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un geste d'humilité qui part du principe que si quelqu'un parle depuis une expérience qui n'est pas la mienne et qu'il ou elle va décrire des situations d'inégalité, se dire, eh ben, en fait, c'est déjà un problème pour la démocratie et on va voir comment essayer de le régler et on doit se sentir concerné par cette situation, même si c'est des expériences qui sont très éloignées de nos expériences individuelles et propres.
Vous avez insisté, Sarah Mazouz, sur l'idée aussi de commun. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce qu'on pense ou de ce qui peut être dit de l'intersectionnalité, où on se dit qu'on va enfermer des individus dans des particularités, dans des identités réifiées et très distinctes les unes des autres, comment on peut construire ce commun-là en se disant qu'on est concerné par les problèmes de l'autre? Comme s'ils étaient les miens, il y a un problème de démocratie, mais néanmoins, à un niveau politique, il y a une question de hiérarchie des priorités. Tout à l'heure, vous nous avez dit, dans le militantisme, on va être plutôt dans une lutte antiraciste ou dans une lutte féministe. Prendre tous l'intersectionnalité, est-ce qu'elle est vraiment opérante, opératoire, en fait, au niveau politique? La combinaison, à un moment donné, un facteur prend le dessus.
Mais l'intersectionnalité ne dit pas qu'il n'y a pas de facteurs qui prennent le dessus dans certaines situations. Elle dit qu'il n'y a pas de primat a priori. Donc après, je ne sais pas moi, selon les attributions de telle ou telle administration, selon les attributions de tel ou tel ministère, on aura sans doute des éléments qui seront prioritaires. Et puis en même temps, on restera attentive et attentive aux autres éléments. Je sais qu'à un moment, par exemple, la démarche intersectionnelle, elle était celle du défenseur des droits. Bon, ben voilà, on croise différents éléments. Et puis après, à l'intérieur de cette institution, vous pouvez avoir des gens qui sont spécialisés sur telle ou telle question plus que sur telle autre. Voilà, l'intersectionnalité ne dit pas tout joue toujours à égalité. Oui. Elle dit on ne peut pas a priori dire tel élément est plus important et une fois qu'on aura réglé cette question, tout sera réglé. C'est pas la même chose. Et puis, alors peut-être, hein, puisqu'on parlait d'universalisme, etc., on a aussi eu tendance, en critiquant l'intersectionnalité, de dire donc non seulement c'est anti-universaliste, ce qui est faux, mais c'est aussi une menace pour l'héritage des Lumières, etc. Ben non, en fait, c'est juste poursuivre le travail des Lumières et être dans une position qui n'est pas une position d'héritier vis-à-vis des Lumières, mais dans une position où on considère que les Lumières sont un legs. L'héritage, c'est le conservatisme, c'est on conserve, on ne veut rien faire bouger, etc. Le legs, c'est garder l'esprit et l'appliquer aux problèmes et aux nouveautés qu'apporte aujourd'hui et aux questions reformulées qu'apporte le contemporain.
Sarah Mazouz, une dernière question pour être sûre d'avoir bien fait voilà, le travail d'éclaircissement sur l'intersectionnalité. Quelle est la différence entre intersectionnalité et wokisme, dont on entend parler tout le temps, et même de communautarisme?
Alors déjà, l'intersectionnalité, vous aurez des textes que vous pourrez lire, vous avez des choses, des références, vous avez des chercheurs et des chercheuses, vous avez...
Un corpus universitaire
et théorique, donc voilà. Le wokisme, je ne crois pas. Blague à part, je crois qu'il faut faire très attention. Le wokisme, en effet, au départ, c'était un terme pour dire woke, qui veut dire je suis conscient, en fait.
Tu es éveillé.
Voilà. Mais pour dire un peu comme on disait conscientisé dans les années 60 et 70. Quand il s'agissait de parler de personnes, notamment des personnes alliées du mouvement Black Lives Matter, qui étaient des personnes blanches, présentes et soutenant ce mouvement. Et puis, ça a été complètement transformé par... La droite et l'extrême droite américaine et la droite trumpiste, quoi, pour en faire une espèce, un peu comme cancel culture, etc., pour en faire une espèce de menace. Et donc ça, alors pour le coup, on reprend ces choses-là des États-Unis dans le débat français sans se poser cinq minutes la question. C'était un peu comme à l'époque du politiquement correct, alors que c'est des créations, pour le coup, idéologiques, où on présente, en plus il y a quand même une certaine ironie, on présente comme étant le danger les militants antiracistes. Alors qu'on est dans un contexte général de menace des démocraties libérales par l'extrême droite et par le racisme, pas vraiment par l'antiracisme. Donc le wokisme, moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est encore une fois un terme qui permet, qui dit à quel point aujourd'hui il y a une circulation des outils de délégitimation qui sont produits par l'extrême droite et qui, elle, pour le coup, a aussi une internationale, si je puis dire.
Merci beaucoup, Sarah Mazouz. De vous, on peut lire coécrit avec Éléonore Lépinard pour l'intersectionnalité. C'est paru aux éditions Anna Moza. Race également aux excellentes éditions Anna Moza. Et puis aussi La République et ses autres politiques de l'altérité dans la France des années 2000. C'est paru aux éditions ENS.
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping off at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper. If you want education. All around the world, love women every shade of. Swaggin' my
my hijabi. Me and my hijabi ladies, we was born in the 80s. So pretty like the Euphrates and party like some Kuwaitis. Deeper than some diplomas, current like some hot yoga. Taking back the misnomers and teleporting through trauma. Teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama. Make a feminist planet, woman haters get banished. Covered up or not, don't ever take us for granted.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laure Dallest. Réalisation Louise André à la prise de son, Lucas Finet et Florent Burgeon. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Au programme la semaine prochaine, les 30 ans de Mario Kart, à quoi servent les critiques ou encore de la glande pinéale. Et puis on se retrouve bien sûr sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr aussi sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France. Yeah.